Question d'Islam par Al Ben Sheikh. Aujourd'hui, nous parlons de non-violence. Non-violence, on n'a pas trouvé autre chose que cela. Lier la non-violence à l'islam, pour certains, c'est oxymorique, c'est antinomique. La violence qui s'abat de nos jours à travers le monde et sur un arc de cercle qui va depuis le nord Nigeria jusqu'à l'île de Jolo, passant par la Corne africaine, sans m'appesantir sur cette région du monde qui a vu naître une monstruosité idéologique et religieuse qu'on nomme Daesh, montre chaque jour que des vies humaines sont fauchées au nom d'une certaine idée de la tradition religieuse islamique. Et pour parler donc de ces deux aspects, la tradition religieuse islamique d'un côté et la non-violence de l'autre, j'ai plaisir à accueillir Éric Vincent.
Bonjour.
Éric Vincent, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous faire l'amitié de venir. Vous êtes docteur en sciences politiques, spécialiste du fait religieux et de la laïcité. Vous êtes professeur à l'Institut catholique de Paris et à Sciences Po Paris. Vous êtes aussi journaliste. Vous collaborez régulièrement au monde des religions, mais aussi d'autres organes de presse. Et vous vous intéressez à ces questions de système politique, de démocratie, de non-violence, de tradition religieuse et non-violence. Comment êtes-vous amené, Éric Vincent, à cet intérêt, la non-violence?
D'abord, j'ai toujours eu un intérêt intellectuel très vif pour la question religieuse, le fait religieux, et notamment comment rendre compte du religieux de façon rationnelle, de façon scientifique, de telle sorte que les croyants et les non-croyants puissent communiquer, se comprendre, être éclairés les uns et les autres par cette meilleure compréhension de ce fait massif qu'est le religieux. Et bien sûr, dès qu'on réfléchit sur le religieux, on est amené aussi à réfléchir sur le politique. On n'a pas d'exemple de société humaine sans religion durablement. Partout et toujours, jusqu'au XXe siècle au moins, le religieux et le politique ont été liés. Et donc, j'ai été amené justement, devant ce constat, à m'interroger sur ce que devenait ce lien dans la modernité. Et bien sûr, face aux exemples que vous citiez en introduction, on est frappé par des violences politiques qui se réclament du religieux ou des violences religieuses qui contaminent le politique, comme on voudra, en islam et ailleurs. Et donc voilà, j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à ces aspects et aussi à essayer de repérer les figures, les discours, les périodes historiques qui contredisent cette association de la violence et du religieux, et en particulier ce que j'appelle les spirituels en démocratie, dont le plus fameux, le plus évident est le Mahatma Gandhi, dont nous célébrerons en 2018 le 70e anniversaire de la mort. Mais il n'est pas le seul, hein. Il appartient à une famille, en fait, qui commence avant lui, peut-être avec Tolstoï, peut-être même avec Abdelkader, on en parlera, l'émir Abdelkader, et puis qui a produit des fruits magnifiques au cours du XXe siècle, comme Martin Luther King, le Dalai Lama, Nelson Mandela, pour ce qui est des acteurs les plus frappants, mais d'autres aussi sur le plan de la pensée. On peut penser à Simone Veil, la philosophe française, Jacques Maritain, etc., etc. Donc, toutes ces figures qui, en fait, ont concilié une exigence religieuse, spirituelle, éthique maximale avec un engagement politique, démocratique, lui-même maximal. Et donc, travaillant sur ces figures, j'ai été amené à m'interroger, à me dire, est-ce que certaines traditions en produisent, entre guillemets, plus que d'autres, plus facilement que d'autres? Parmi les noms que je vous ai cités, voilà, en dehors de l'émir Abdelkader, qui serait en début de période, si on peut dire, à la fin du 19e siècle, au milieu du 19e siècle, eh bien, il y a peu de musulmans. Et donc voilà, c'est par ce cheminement de pensée que j'en suis venu à m'interroger, à me dire, mais est-ce que vraiment l'islam peut produire des acteurs non violents? En a-t-il produit? Si oui, pourquoi ne les connaît-on pas? Et c'est ainsi que j'ai été amené justement à rechercher plus spécifiquement ces figures et à remarquer qu'elles existent, mais que hélas, on leur fait peu de publicité.
Alors, cher Éric Vincent, nous aurons à les passer en revue, même s'ils ne sont pas nombreux. Où elles ne sont pas nombreuses, ces figures emblématiques très peu connues. Je voudrais revenir sur une phrase que vous avez citer comme ça en passant. Vous avez dit que jusqu'au XXe siècle, le religieux et le politique étaient liés, et vous pensez que c'est une marque de modernité et de progrès humain que de les désintriquer?
Je le constate, c'est-à-dire que la modernité, la modernisation, ce qu'on appelle aussi plus précisément la sécularisation, implique justement une mise à distance du religieux à l'égard du civil, du politique. Dans les sociétés traditionnelles, dans les sociétés du passé, le religieux et le politique sont indissociablement liés. Alors, on ne peut pas dire qu'ils sont confondus. Par exemple, si on regarde l'histoire de la chrétienté occidentale, la tension entre les acteurs temporels et les acteurs spirituels constitue justement la vie politique, pour l'essentiel. Donc, on ne peut pas dire que dans les sociétés traditionnelles, ces deux instances sont confondues. Néanmoins, elles sont inséparables. Or, avec la modernisation, la sécularisation, on voit émerger l'idée qu'il faut les séparer, ou de fait qu'elles se séparent, puisque la sécularisation est un processus qui, à bien des égards, peut sembler spontané, hein, non coordonné, non recherché par des acteurs politiques en tant que tels. C'est la différence avec la laïcisation, qui, elle, est une démarche volontariste de la part de certaines forces politiques. Et donc, oui, on voit comment cette distance se crée. Le religieux, qui était la structure même, la colonne vertébrale du vivre ensemble dans les sociétés traditionnelles, perd ce rôle et devient optionnel, voire marginal. Et ces évolutions, bien sûr, remettent en question l'ordre anthropologique tel qu'il s'était édifié pendant des siècles et des millénaires. Donc là, on est face à une véritable révolution, en fait, hein, qui n'est peut-être pas prise en compte en général à sa juste valeur, avec toutes ses implications, qui a des effets dans des domaines insoupçonnés, certainement, et au fond, qui nous amène à nous réinterroger sur la pertinence de ce qu'on appelle le théologico-politique. Pour ce qui est de cas de l'Occident et de la France en particulier, la laïcisation, la sécularisation suffisent-elles à nous libérer du théologico-politique? J'ai tendance à penser que non. Il y a qu'à voir aussi l'omniprésence des polémiques, des questions, des débats dans notre société française actuelle autour justement du rapport entre religion, laïcité, vivre ensemble, en général et en particulier autour de l'islam. Donc voilà, on voit bien que ces questions sont au cœur de nos préoccupations, mais qu'il faut peut-être justement les penser spécifiquement à frais nouveaux, en considérant que nous ne sommes pas libérés du théologico-politique. On peut avoir ça comme objectif, ça peut être un objectif collectif extrêmement noble, c'est peut-être celui de la laïcité, mais ça implique un travail très en profondeur, et sur le religieux, et sur le politique. Et aussi de considérer que les figures démocratiques qui nous inspirent le plus, les Nelson Mandela, les Gandhi, etc., les spirituels en démocratie, sont justement des personnes qui, à certains égards, transgressent cette différenciation du politique et du religieux. Par exemple, Gandhi l'a écrit dans ses mémoires à plusieurs reprises. « Ceux qui considèrent que le politique et le religieux n'ont rien à voir se trompent. Je suis rentré en politique à cause de motivations religieuses. » Et pour lui, ces deux plans étaient inséparables, comme je disais, dans une logique qui rappelle celle de la tradition antérieure. Et en même temps, à l'évidence, Gandhi et les autres, les non-violents que j'évoque, vivent cette connexion du politique et du religieux d'une façon tout à fait spécifique. Voilà. Donc à la fois, on pourrait dire qu'il y a une continuité avec ce qui précède, mais la posture spirituelle en démocratie dénote aussi justement une modernisation du théologico-politique, une transformation radicale qui porte des fruits, hein, qui a des effets, je pense, remarquables. C'est bien pour ça que ces figures, ces personnes sont au panthéon de la modernité actuelle. Hein, le Mahatma Gandhi, Mandela, Martin Luther King sont des figures dont on parle aux enfants quasiment à la maternelle. Hein. Et en même temps, on ne réfléchit pas réellement à ce qui les caractérise, à leur spécificité, à pourquoi ils ont ce type de parcours, quels en sont les ressorts. Et c'est là où moi, essayant de faire cet effort, j'en suis arrivé à cette notion de spirituel. Voilà. Oui. Un abord spirituel du religieux qui permet à la fois de replacer le spirituel dans la cité démocratique sans pour autant retomber dans les travers du théologico-politique classique et en particulier celui de l'imposition religieuse et de la violence. Et c'est là on en arrive évidemment à la centralité de la non-violence.
Oui. Éric Vincent, au début de l'émission, vous avez dit que vous essayez de rationaliser ou d'avoir une approche plutôt rationnelle du fait religieux et que, si j'ai bien compris, vous pensez que ce serait un point à l'horizon de s'affranchir du théologico-politique quand il est prégnant comme ça dans la société. Que pensez-vous à ceux qui disent, de toute façon, les sociétés n'arrivent pas à vivre sans un sacré qui les consacre?
Eh bien, en fait, je pense qu'on manque de recul historique, d'abord pour affirmer, hein, c'est-à-dire que la modernité est toute jeune à l'échelle historique. Hein. Nous avons des millénaires d'histoire humaine, je dirais, consciente, hein, avec des traces historiques, et plusieurs centaines de milliers d'années d'histoire d'Homo sapiens dont on ne sait quasiment rien, mais qui existe pour néanmoins. Nous avons des ancêtres qui ont, maintenant les archéologues nous disent peut-être 300 000 ans. Donc voilà, il y a une très très longue histoire humaine. Et pour ce qu'on peut savoir de cette histoire humaine, oui, le sacré a toujours été central, comme je disais, omniprésent. Et d'ailleurs, là aussi, il faut opérer une distinction, c'est que dans ces sociétés traditionnelles, le sacré et le religieux se confondent. Ce qui caractérise la modernité, c'est que le sacré et le religieux se détachent, se désarticulent, et qu'il se met à exister du sacré non religieux. Pensons bien sûr à la nation, par exemple, hein, la sacralisation de la nation à partir du 19e siècle et du 20e siècle, et puis tout un tas de sacralités ou de pseudo-sacralités dont notre temps est rempli, hein, pensons au sport ou aux phénomènes autour de ce qu'on appelait il n'y a pas si longtemps les idoles dans le domaine de la pop musique, etc., dans le domaine des médias et autres. Donc on voit qu'il y a il y a des transferts de sacralité, voilà, et que le sacré et le religieux étaient totalement liés et qu'ils se déplacent. Alors, après, jusqu'où peut aller ce type de processus, c'est une question ouverte. J'ai tendance à penser, en effet, qu'une collectivité humaine ne peut pas durablement vivre sans sacré. En tout cas, après, ça ouvre des perspectives de réflexion qui ne sont pas sans rapport avec ce que certains appellent aujourd'hui le transhumanisme ou le posthumanisme. Peut-être que des sociétés humaines pourraient vivre sans sacré, mais seraient-ce encore des humains ? C'est une question ouverte. Et donc, la question de la prégnance du sacré dans la vie des sociétés démocratiques est une question vive, ardente. Et je pense qu'elle se pose particulièrement en France, qui de toutes les démocraties est certainement celle qui a le plus de problèmes avec cette idée de sacré, qui de par son histoire l'a plus mise à l'écart et en même temps sans y échapper, hein, comme on l'a dit. Aller le 11 novembre devant l'Arc de Triomphe ou le 14 juillet ou le 18 juin devant au Mont-Valérien, par exemple, comme le dit Régis Debray, vous verrez ce que c'est que le sacré républicain. Ça existe. Hein. Mais ça n'est pas pensé comme tel, ça n'est pas reconnu. Et voilà, notre culture française, en particulier les intellectuels, ont une réticence, ont un malaise à l'égard de cette question du sacré et du religieux. Et donc, là encore, je pense que les figures comme Gandhi ou certains, par exemple, musulmans, en l'occurrence, qui se sont eux-mêmes ralliés à cette non-violence, nous montrent la possibilité de faire advenir un rapport au sacré dans un cadre pluraliste, dans un cadre démocratique, de façon non contraignante pour autrui, et donc de concilier peut-être les avantages non seulement de la société moderne, mais aussi ceux d'une certaine sagesse qui nous vient du passé.
Bien, Éric Vincent, une toute dernière question dans ce long préambule, et après nous rentrons in medias res dans le vif du sujet à propos de la non-violence. Peut-on dire que la laïcité, du coup, comme un principe juridique sans épaisseur idéologique, va permettre la cohabitation des sacrés au pluriel au sein de la nation?
Mais je pense qu'elle est censée le faire. C'est sa vocation d'être ce cadre englobant qui permet à toutes les convictions, religieuses ou non, de vivre harmonieusement, de coexister et de bien vivre ensemble.
Vous avez entendu une fois ailleurs, en dehors de l'émission, dire que elle est le cadre du tableau et ce n'est pas les couleurs.
Ce ne sont pas les couleurs du tableau. Voilà, les couleurs, ce sont les opinions, les convictions philosophiques et religieuses éventuelles ou non religieuses. Ça, c'est la vitalité même de la vie sociale humaine dans sa diversité. Mais la laïcité au sens strict est le cadre juridique et politique qui permet à toutes ces couleurs de cohabiter, de former un beau tableau. Alors, le fait est que dans notre histoire, la laïcité, pour certains de nos concitoyens, a aussi une valeur, justement, philosophique, convictionnelle, et ne se réduit pas à ce cadre juridico-politique. Et c'est là où on est dans une difficulté théorique et pratique actuelle. Hein, voilà. La laïcité peut-elle, entre guillemets, jouer sur les deux tableaux et être à la fois le cadre neutre qui encadre toutes les convictions et en même temps l'une des convictions parmi les autres. Là, il y a une difficulté théorique particulière. Et puis, vous évoquez la question du sacré, des sacrés. Donc, faire cohabiter tous les sacrés, non pas seulement des opinions, mais le sacré, c'est bien sûr un intensif. Hein. Il y a quelque chose de très puissant et qui nous amène aussi à notre sujet du jour, c'est-à-dire le sacré, c'est peut-être ce qui légitime la violence ou qui peut la légitimer contre soi-même et contre autrui, c'est-à-dire le sacré, c'est ce qui peut me pousser à donner ma vie ou à prendre la vie d'autrui. Et c'est évidemment pas un propos normatif que je tiens, mais un propos descriptif de ce que le sacré recouvre dans les sociétés humaines depuis toujours. Et donc, cette intensité du rapport à l'absolu qui peut aller jusqu'à la violence et jusqu'à la mort, comment la laïcité peut-elle le réguler, peut-elle l'amadouer, l'apprivoiser? Je crois que c'est en grande partie aussi un chantier qui est devant nous. C'est-à-dire que le défaut de pensée approfondie du religieux dans notre société française, le défaut de connaissance, de culture sur le religieux et sur la laïcité, sur les laïcités, sur les différents modèles et sur la complexité de l'histoire de la France et des autres pays en matière de laïcité, eh bien, ça rend difficile cette tâche d'apprivoisement du rapport à l'absolu qui fait partie de la vie humaine. Et là encore, je crois que les spirituels en démocratie sont pour nous des sortes de phares, en quelque sorte, ou des exemples, des modèles peut-être, qui nous aident à penser un rapport à l'absolu qui serait non pas désacralisé, mais qui serait désarmé, au sens qui ne se véhiculerait plus une violence mortifère, par la magie de la non-violence.
Oui, vous avez évoqué à plusieurs reprises le sacré. Tout en vous écoutant, j'ai pensé à cette citation de Roger Caillois dans L'homme et le sacré, dire le sacré est in fine ce dont on ose s'approcher sans subir une fulgurance. Et voilà, le lien est fait entre violence et sacré. Pensez-vous, Éric Vincent, finalement, au gré de vos recherches, et en dépit de tout, que dans l'islam contemporain, il y a des notions, une doctrine, une vision du monde, des théories, et de ce fait donc des théoriciens et un investissement intellectuel pour la non-violence.
Alors en fait, oui, il y a des musulmans non-violents, il y en a eu dans l'histoire. La question est évidemment très vaste et très complexe, parce que la non-violence a plusieurs ressorts, et on pourrait par exemple évoquer la question du pluralisme religieux en islam, qui est, je pense, l'une façon d'éviter de tomber dans le rejet d'autrui, le rejet de l'autre croyant, le rejet de l'infidèle, entre guillemets, ou du mécréant, qui existe aussi, bien sûr, dans l'islam, comme dans toutes les autres religions. Et donc là, on a en effet, au moins, je dirais, depuis le début du XXe siècle, peut-être avant, et on pourra peut-être en parler ensemble, des figures qui se sont engagées politiquement et religieusement de façon, j'allais dire radical, mais c'est un mot piégé de nos jours, de façon intense, sans être tiède, en jouant leur vie, mais sans céder à la violence. Et même, je dirais, qui ont été non-violents à cause de l'islam. C'est pas non-violents malgré l'islam, mais non-violents à cause de l'islam.
Ou grâce à l'islam.
Grâce à l'islam.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec le professeur Éric Vincent. Éric Vincent, vous êtes diplômé de sciences politiques, vous êtes docteur en sciences politiques, spécialiste du fait religieux et de la laïcité. Vous enseignez à l'Institut catholique de Paris et à Sciences Po Paris. Vous êtes aussi journaliste et vous collaborez régulièrement au monde des religions. Nous parlons aujourd'hui d'islam et non-violence. Encore une fois, j'ai dit que ça paraît oxymorique ou antinomique. Commençons par la fin du 19e siècle, puisque vous avez évoqué l'émir Abdelkader, mais Abdelkader était plutôt résistant. Certes, certains le présentent comme un homme, un cavalier, hors pair, chevaleresque, spirituel, mystique, mais il a combattu.
Tout à fait, mais je pense que justement, là aussi, ça nous invite à avoir une vision plus fine, plus approfondie de ce qu'est la non-violence, au-delà des stéréotypes. Le père fondateur de la non-violence active, comme je disais tout à l'heure, Gandhi, à plusieurs reprises, évoque lui-même le passage à la violence comme une possibilité, en disant que, par exemple, entre le déshonneur et la violence, il préfère la violence. C'est des pensées, des paroles qu'on ne connaît pas, qui sont peut-être embarrassantes, mais qui montrent que voilà, la non-violence gandhienne, malgré son intensité, sa puissance, ne revient pas à l'abandon absolu et total, et dans toutes les circonstances, de la violence. On trouvera le même cas chez Nelson Mandela. C'est une question compliquée dans les rapports entre Mandela et Gandhi, justement, mais on peut dire que voilà, Mandela a été non-violent comme l'était l'ANC en Afrique du Sud jusqu'au début des années 60.
Il est passé l'ANC étant l'African National Congress, donc le Congrès national africain.
Voilà, le parti politique qui était le fer de lance de la résistance à l'apartheid. Et Nelson Mandela donc est passé avec certains militants de l'ANC à la lutte armée pendant un temps court. Lui-même après s'est retrouvé incarcéré et donc n'a pas poursuivi dans cette voie. Et finalement, au cours de son évolution en prison, il est revenu à la non-violence. Mais là, on a un exemple aussi de comment, dans un même parcours, violence et non-violence peuvent cohabiter. Alors, ce qui pose évidemment des questions d'interprétation, des questions des contestations sur la nature réellement non-violente ou totalement non-violente d'une figure. Chez Gandhi, par exemple, il lui a été beaucoup reproché d'avoir créé des unités d'ambulanciers dans le cas d'abord de la guerre des Boers, de la deuxième guerre des Boers au début du XXe siècle en Afrique du Sud. Ensuite, dans le cas de la révolte Zoulou de 1906, toujours en Afrique du Sud. Et puis, d'avoir encore essayé de faire la même chose au début de la Première Guerre mondiale et d'avoir invité les Indiens à participer aux côtés de la Grande-Bretagne dans l'Empire britannique à la Première Guerre mondiale. Donc là, on a trois exemples de comment voilà, cette figure par excellence de la non-violence s'est trouvée mêlée à des activités guerrières. Donc dans le cas d'Abdelkader, on pourrait dire oui, je pense que si on simplifie, il y a deux grandes périodes dans la vie d'Abdelkader. Une période où il est le fer de lance de la résistance algérienne contre la colonisation française. Et après avoir été un combattant hors pair qui a fait preuve de toutes les qualités que vous évoquiez, chevaleresque par excellence, a été vaincu, a juré de ne pas reprendre les armes à son vainqueur, à savoir à la France, et a tenu son serment. A mené par la suite des activités à la fois spirituelles et culturelles, humanistes, qui ont fait de lui une référence pour les deux rives, en quelque sorte, pour les deux rives de la Méditerranée, et qui a fait de lui un pont entre Orient et Occident, notamment dans le cas fameux où il a risqué sa vie pour protéger les chrétiens de Damas, puisqu'il était parti en exil à Damas, et voilà, où attaqué par des violents, justement, hein, musulmans et aussi druzes, semble-t-il, à Damas,
On est en juillet 1860.
1860, il a donc, il s'est interposé pour protéger les chrétiens qui étaient en danger. Donc là, voilà, on a, je dirais, cette complexité humaine aussi, je dirais, celle d'une évolution.
Ça lui a valu une lettre de Monseigneur Pavie, successeur de Monseigneur Dupuche, évêque d'Alger, lui disant « mais tu n'as pas de ressentiment contre les chrétiens ». À ce moment-là, la citoyenneté, elle était confessionnelle. Et la réponse de l'émir était « je n'ai rien fait d'autre que de me conformer à un aphorisme prophétique. Les hommes sont enfants de Dieu et le plus aimé parmi eux auprès de Dieu est le plus aimant et plus utile à ses enfants ».
Exactement. Et donc là, on voit comment, au nom même de l'islam, ce combattant par excellence, on a vraiment affaire à quelqu'un qui n'a pas peur de prendre les armes pour défendre sa patrie, pour défendre la justice ou ce qui lui semble la justice, peut, tout, en parfaite cohérence et en fidélité à ses principes, être conduit à la non-violence et en devenir un symbole, un acteur remarquable et qui, je dirais, a eu une vertu aussi, c'est que il a fait l'unanimité pour lui du côté des Occidentaux, des Français notamment, et notamment on sait qu'il a, par exemple, reçu des témoignages de reconnaissance et d'honneur du pape et de plusieurs loges maçonniques, si bien qu'il est rentré lui-même en maçonnerie. Et ce qui a fait, voilà, on pourrait dire, voilà, quelqu'un qui a fait l'unanimité sur ses qualités. Donc, je pense, voilà, qu'à certains égards, l'émir Abdelkader peut sembler en effet un grand ancêtre de la non-violence en islam, en tout cas par rapport à ce qui va se passer par la suite au XXe siècle. Et puis aussi, peut-être, alors ça demande d'approfondir les choses, mais sur sa vision du politique, mais peut-être aussi un précurseur de ces spirituels en démocratie, par son ouverture d'esprit, par sa mise en œuvre du pluralisme.
Passons à un autre contemporain, né en 1890, je pense à l'ami de Gandhi, Abdul Ghaffar Khan. Mmh. Qui est-il? Pourquoi parle-t-on de lui comme étant aussi un non-violent en contexte islamique et qui est très peu connu?
Tout à fait. Donc, alors vous l'avez dit, ce chef Pashtun. Hein, donc, nous sommes à la frontière du British Raj et de l'Afghanistan. Hein, donc, cette zone frontière extrêmement disputée depuis toujours, en fait, qui est l'objet de ce qu'on appelait le grand jeu géopolitique entre diverses puissances à l'époque et, je crois, encore aujourd'hui, il me semble. Eh bien, ce Abdul Ghaffar Khan a été donc d'abord l'âme de la résistance Pashtun. Hein, donc, dans l'un des peuple de cette région face à la colonisation britannique, un activiste à la fois culturel, politique bien sûr, et aussi religieux, une figure du soufisme local, un homme extrêmement respecté puisqu'on l'appelait Bashar Khan, le roi des chefs, et son autre surnom était aussi le Gandhi de la frontière, cette fameuse frontière du Nord-Ouest, donc le Gandhi de la frontière. Il semblerait qu'il ait entrepris ses activités non violentes de résistance, alors passive, Gandhi n'aimait pas le mot parce qu'il n'y a rien de passif dans tout ça, mais de désobéissance civile face aux colonisateurs anglais dès le tout début des années 20, en 1921 apparemment, et avant de créer en 1929 le mouvement pour lequel il est devenu célèbre, qu'on appelle les chemises rouges, ou les servants de Dieu.
Oui, mais d'aucuns pensaient que c'était plutôt d'inspiration marxiste-communiste, alors qu'en réalité, c'était plutôt spirituel et religieux.
Tout à fait. Sachant que là, votre réaction incite aussi à se poser la question du rapport au socialisme au marxisme, parce que une bonne partie des personnes que j'ai citées, de ces spirituels en démocratie, se réclamer du socialisme et même certains d'entre eux du marxisme. Le rapport de Gandhi au socialisme au marxisme est assez complexe, encore une fois. Beaucoup d'Indiens, on le verra bien en plus avec l'évolution de l'Inde après le départ des Britanniques, se réclameront du socialisme. On sait bien que Nehru, un principal disciple de Gandhi, même s'il semble bien être un disciple très infidèle, a choisi pour l'Inde une voie d'un socialisme assez original, assez particulier, un socialisme non aligné. Hein. Et donc, en effet, ces chemises rouges, voilà, évoquaient peut-être quelque chose comme Garibaldi et puis tout une geste nationale italienne et aussi évidemment le rouge dans ce contexte des années 20, peu après la révolution d'octobre 17, faisait penser au marxisme. Mais le fait est que la référence principale, essentielle bien sûr, de Abdul Ghaffar Khan était l'islam. Et avant même de connaître Gandhi, c'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est que voilà, il a choisi cette voie de la non-violence en se nourrissant de la tradition islamique, en se nourrissant notamment, il le disait lui-même, de l'exemple du prophète de l'islam, de Mohammed, puisque notamment, il disait, un musulman ou un pachtoun adhérent comme moi au credo de la non-violence n'a rien d'étonnant. C'est celui du prophète à la Mecque il y a 1400 ans.
Faisant allusion à la reprise ou l'entrée du prophète de l'islam à la Mecque en 630, où il disait « sans effusion de sang ». Donc, et où il disait « que penseriez-vous que je vais faire de vous ?» Ses interlocuteurs et ses contributeurs, ceux qui l'avaient chassé de cette ville il y a une dizaine d'années, plus tôt, avant l'Égypte donc, ils lui ont dit, mais nous t'avons toujours connu un homme généreux, fils d'un homme généreux, selon la version standard de la tradition. Et il leur avait rétorqué, donc partez, vous êtes libres.
Tout à fait. Donc je pense qu'en effet, Abdul Farhan fait référence à la conquête pacifique de la Mecque, mais aussi à la, toute la période première de la révélation coranique où Mohammed, donc, est avant son départ, avant l'Égypte, avant son départ vers Yathrib, vers Médine, où en effet, il a mis en œuvre par excellence la patience, hein, cette vertu de l'islam aussi extrêmement importante, et en recommandant à de nombreuses reprises justement la patience, la persévérance, la non-violence, hein, le pardon. Des offenses, enfin, les occurrences tant coraniques que dans la sunna sont très très nombreuses, et donc voilà la source à laquelle s'abreuvait Abdul Ghaffaran pour à la fois inciter ses troupes très nombreuses à l'époque, hein, puisqu'on parle de jusqu'à 100 000 militants dans ce mouvement des servants de Dieu, hein, des chemises rouges, les Kudai Khidmatgar, un mouvement considérable, très durement réprimé par les Anglais, avec des massacres, hein, des violences extrêmement dur exercé contre ses militants. Et donc Abdul Ghaffaran, qui a persévéré avec ses fidèles sur cette ligne, avant de rencontrer Gandhi à la fin des années 20, de devenir amis, ils avaient voilà, une admiration mutuelle entre eux sur la base même de ses réalisations, de ce chemin extrêmement courageux et chevaleresque. On parlait tout à l'heure de l'aspect chevaleresque, les satyagrahis, comme dit Gandhi, hein, ceux qui pratiquent le satyagraha, donc l'étreinte de la vérité en sanskrit, hein, qui est le nom de la démarche gandhienne en tant que telle, eh bien, sont des guerriers. Ce sont des guerriers de la non-violence. Ce sont des chevaliers qui mettent en œuvre toutes les vertus chevaleresques, mais sans frapper autrui. Et en travaillant sur eux-mêmes et en prenant les plus grands des risques, puisque le risque justement de s'exposer à la mort sans soi-même exercer la violence, donc a été mis en œuvre par cette figure. Et par la suite, Abdul Ghaffaran, donc après la victoire donc du Parti du Congrès et hélas la partition de l'Inde à laquelle il s'était opposé, il a eu donc un certain nombre de difficultés et de problèmes avec le pouvoir pakistanais. Donc il s'est retrouvé être lui-même citoyen pakistanais après la partition de l'Inde, cette catastrophe que lui-même et que Gandhi avaient tout fait pour éviter. Gandhi parlait de vivisection de l'Inde. Et bien malheureusement, je crois pour l'Inde et pour ce qui est devenu le Pakistan et le Bangladesh et aussi pour notre monde, et bien cette cassure s'est faite au prix de massacres et de très 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 nombreux morts et d'exilés par millions. Et donc Abdul Ghaffaran a maintenu cette ligne en fait aussi de coexistence pacifique entre les peuples, entre les communautés, entre les religions, jusqu'à sa mort en 1988.
Pensez-vous, Éric Vincent, que Abdul Ghaffaran décide de s'abreuver uniquement à la période mécoise de la révélation coranique et en oubliant ou en occultant ou en étant embarrassé par la période dite médinoise, comme d'aucuns le disent de nos jours, que l'essence de la tradition religieuse islamique et du Coran est dans la partie mécoise?
Bien, en fait, là, on en arrive justement en quelque sorte au cœur du problème, au cœur du sujet, c'est-à-dire la dualité de l'islam, la dualité du Coran, la dualité de la sunna, hein, qui nous montre des passages, des épisodes violents, hein, où la violence est pratiquée ou recommandée même, ou même il y a une injonction à pratiquer la violence. Et puis, passage, épisode, moment où c'est tout l'inverse, bien sûr, où c'est justement la patience, la miséricorde, la paix, le pardon qui sont mis en œuvre. Et donc, on sait bien voilà, que les musulmans non-violents sont confrontés, bien sûr, à cette question. Alors, on a parmi ces figures, Mahmoud Mohamed Taha, qui lui est un Soudanais, et qui a lui-même, au fond, essayé de résoudre cette contradiction en considérant que les sourates révélées à Médine, qui sont celles qui font preuve de plus de cette violence, hein, cet appel parfois à la mort, en fait, avec la racine trilitaire arabe KTL, hein, donc qui renvoie cette
qui veut dire tuer,
qui veut dire tuer, voilà. Bon, ces passages sont dans le Coran, on ne peut pas les nier, hein, mais Mahmoud Mohamed Taha, lui, a en fait considéré que les sourates mécoises étaient d'une actualité permanente, hein, celles qui posent les dogmes fondamentaux de l'islam et les principes éthiques de valeur universelle et sont justement le cœur même de l'islam, et que les sourates médinoises et les passages qui évoquent cette violence avaient une valeur conjoncturelle. Donc voilà, donc c'est le schéma qu'on peut retenir, hein, le structurel et le conjoncturel en quelque sorte, et que donc le prophète fort de la révélation coranique, étant confronté à l'exercice du pouvoir en tant que chef d'État, d'un État naissant à Médine, avait dû, entre guillemets, en quelque sorte, se confronter à la violence de la société de l'époque, qui était extrême, hein, puisque au 7e siècle, la péninsule arabique est une culture marquée par la razzia et la survie difficile et un mode de vie extrêmement brutal, et que donc, dans ce contexte, une violence était réapparue, en quelque sorte, par opposition avec ce qui s'était passé jusque-là à la Mecque, avec cet idéal de supporter les offenses, hein, et un idéal de pardon et de miséricorde. Et donc, voilà, Taha disait, la charia, telle qu'elle s'est construite par la suite, a trop valorisé en quelque sorte ces épisodes conjoncturels, donc qui sont bien là, on ne peut pas les nier, mais ils ont une valeur temporaire, alors que la charia dont les musulmans ont besoin aujourd'hui est une charia fondée sur les sourates mécoises, sur l'islam structurel, le cœur de l'islam, sur cette spiritualité et cette éthique universelle. Et donc là, on a une... Bon, il n'est pas le seul en plus à proposer ce type de solution, hein, au fond, à dire, voilà, il y a cette tension dans l'islam. Au fond, on pourrait dire, on retrouve une question classique aussi dans la théologie islamique et dans l'exégèse islamique, et celle des versets abrogeants et abrogés. Bon, on sait que malheureusement... Voilà, les non-violents considèrent que ce sont les versets violents qui sont abrogés et les non-violents, les versets non-violents qui sont abrogateurs, mais que dans la majorité des cas jusqu'ici, c'est l'interprétation inverse qui a dominé. Mais en tout cas, là, on a une solution possible sur le plan théologique et exégétique pour désamorcer la violence des textes qui est, encore une fois, hélas, indéniable, même s'il ne faut pas la surestimer. Là, on a tout un, voilà, une réflexion à mener aussi là-dessus. C'est un débat qui s'est mené en partie dans la société en France et ailleurs, pour essayer d'évaluer, par exemple, la violence du Coran ou de la Sunna. Alors, ce sont des questions très complexes. On n'a pas, je dirais, un appareil pour mesurer, voilà, l'importance des versets, et on ne peut pas, par une approche purement numérique, dire, voilà, c'est ça qui domine, ou c'est plutôt voilà, la violence ou la non-violence qui domine. Mais en tout cas, voilà, on peut dire qu'il y a des solutions possibles, tout en restant dans le cadre d'un islam orthodoxe, pour désamorcer la violence.
Oui. Alors, vous avez évoqué Mahmoud Mohamed Taha. Rappelons simplement qu'il est né en 1908. Il a été exécuté par Jafar Numeri, le dictateur soudanais, en 1985, pour faire plaisir, justement, à l'aile islamiste.
Islamiste, tout à fait. De Tourabi.
À ce moment-là, ça ne lui avait pas porté... grand secours, puisque quelques temps plus tard, lui-même a été balayé.
Exactement.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec le professeur Éric Vincent. Éric Vincent, vous êtes docteur en sciences politiques, spécialiste du fait religieux et de la laïcité. Vous enseignez à l'Institut catholique de Paris et à Sciences Po Paris. Et vous êtes aussi journaliste et vous collaborez très régulièrement, notamment avec le Monde des religions. Parlons d'un autre non-violent contemporain encore vivant, qui est très peu connu,
Et pourtant, son investissement à la fois intellectuel, spirituel, son aura, mérite d'être connu davantage. Il s'agit de Jawdet Saïd.
Tout à fait, qui est donc un penseur syrien né en 1931, donc comme vous disiez, qui est un contemporain, un homme qui est âgé mais qui est toujours actif.
Et
qui
est à 86 ans.
86 ans, voilà, mais qui continue à enseigner tant bien que mal dans le contexte d'une Syrie éventrée et dans un état catastrophique. Et donc, en effet, il est l'un de ces penseurs non-violents de l'islam qui a édifié depuis les années 60, le milieu des années 60, une œuvre axée sur cette vision d'un islam pacifique et orthodoxe. Alors, on a toujours cette idée, au fond, de ne pas basculer dans des courants qui ne pourraient pas trouver grâce auprès de la majorité des musulmans. Mais tout le défi intellectuel et religieux est bien de rester dans le cadre de l'orthodoxie et en même temps de valoriser ces approches pacifiques et pacifiantes de l'islam. Et en l'occurrence, Jawdet Saïd, par exemple, a travaillé sur la figure de Abel. Il est revenu donc sur l'histoire à la fois biblique et coranique des fils d'Adam, qui sont en même temps aussi bien sûr l'un des noms de nous tous les humains, les fils d'Adam. Et donc Caïn et Abel et de ce meurtre primordial qui bien sûr nous met au cœur là aussi du sujet. On va dire que dès le début en fait, ben voilà, entre frères on s'entretue. Et en même temps de rappeler voilà que le passage coranique qui raconte cette histoire,
c'est le verset 28 de la sourate 5, la sourate dite de la table servie.
Exactement, et qui est un texte magnifique et où on voit parler Abel, ce qui n'est pas le cas à ma connaissance dans la Bible. Donc on pourrait dire entre guillemets le Coran donne plus de place à Abel que le texte biblique lui-même, et où on voit justement Abel dire à son frère: tu veux me tuer, mais moi je ne lèverai pas la main sur toi.
Si toi tu lèves ta main sur moi pour me tuer, eh bien moi je ne lèverai pas ma main sur toi pour te tuer. Et Jawdet Saïd, dans sa doctrine dite la doctrine du fils d'Adam, du premier fils d'Adam,
exactement.
C'est comme ça que
c'est le titre de son ouvrage. Oui.
Et puis c'est devenu même une doctrine.
Une doctrine voilà, élaborée.
Et il disait que, au lieu de dire que l'histoire de l'humanité a commencé par un meurtre, ce qui est le cas, il vaut mieux dire que ça a commencé par un geste de non-violence pour qu'il n'y ait pas une corruption du mal. Et on ne réagit pas au mal par le mal.
Par le mal. Et ce qui est là aussi fondé dans le Coran et la Sunna, il y a beaucoup, enfin sur la notion de bel agir, il est très souvent recommandé de réagir au mal par le bien. Et là, c'est vraiment cette idée que c'est, je dirais là aussi, le cœur de la non-violence, au fond, cette idée, voilà, ne rajoute pas le mal au mal. De la même façon, Jawdet Saïd enseigne, par exemple, que châtier violemment le pécheur ou le fauteur de troubles, ça revient à casser une vitre au lieu de la nettoyer.
Oui, c'est la belle image qu'il donne. Et puis, il s'inspire, à supposer qu'il faille là aussi prendre des versets hors contexte, mais là, en l'espèce, c'est vous qui m'y poussez, en quelque sorte. Alors, c'est le fameux verset 34 de la sourate 41, la sourate dite des versets détaillés, qui dit en substance: et quelle meilleure parole que de dire je me remets à Dieu, la bonne action et la mauvaise ne sauraient aller de pair. Rends le bien pour le mal.
Exactement.
Et tu verras celui dont une inimitié te séparait se transformer en ami et protecteur chaleureux. Mais n'y parvient que celui qui sait faire preuve d'une grande patience, et n'y parvient que celui qui est siège d'une grâce infinie.
Exactement.
Fin de citation. Ouais. Il y a aussi, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, toute la période mécoise, et même le comportement du prophète, donc là on revient un peu à la sunna, qui est problématique dans la période médinoise, c'est lorsque le prophète de l'islam va à l'oasis Taif en 619, où il a été très mal accueilli, lapidé à coups de pierre, des éléments putrides sur la tête, battu à coups de mâchoire d'âne, sa propre mâchoire fracassée, visage ensanglanté, et il ne disait rien d'autre que « Oh mon Dieu, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ».
Tout à fait.
Reprenant les paroles de Jésus, connaissant la passion.
Ouais.
Et donc ceci a inspiré Jawdet Saïd, ça, vous avez étudié toutes ces choses-là, et c'est parce qu'il réagissait à l'idéologue des frères musulmans, Saïd Qutb, en 1966.
Et donc là, on voit qu'on est au cœur de notre question pressante actuelle face à la radicalisation violente, à l'islamisme violent, à ce qu'on appelle communément djihadisme, terrorisme qui se réclame de l'islam. Eh bien, l'islam a produit des contrepoisons. Des personnes comme Jaddad Saïd ou des Gandhiens musulmans comme Abdul Ghaffar Khan. Et je dirais le drame quelque part, ou le drame qui s'ajoute au drame des crimes commis au nom de Dieu, c'est qu'on ne parle pas de ces figures. Voilà, c'est pour ça que je vous remercie vraiment chaleureusement de consacrer l'émission d'aujourd'hui à ces personnes, car il y a quelque part un mystère, enfin, ou pour moi un étonnement, de voir peut-être une sorte de complaisance collective de nous tous et de nos médias face à cette violence, sans jamais évoquer les contrepoisons possibles, les antidotes possibles, et j'irais aussi la masse à la fois des musulmans qui s'opposent à ces violences et des autorités musulmanes aussi qui ont pris, peut-être tardivement, mais en tout cas à plusieurs reprises, position dans divers pays, en France comme ailleurs, pour s'opposer à ces violences. Et donc là, voilà, on a, je dirais...
On pourra vous objecter qu'on s'attendait, on s'attend toujours à une lame de fond et on ne la voit pas venir.
Mais peut-être justement, je crois que la mention de Jaddad Saïd, de ces figures, de la non-violence de Abdelkader dans la deuxième partie de sa vie, de Abdul Ghaffar Khan, de Mahmoud Mohamed Taha, et d'autres moins connus, en Palestine par exemple, hein, on voit que dans le cas du conflit israélo-palestinien, on a aussi beaucoup de combattants non-violents dont personne ne parle, dont on ne connaît même pas le nom.
Le poème de Faisal Husseini... Seigneur, ne transforme pas mon amertume et ma peur en haine. Aide-moi à aimer mon ennemi.
Tout à fait. Et donc là, je dirais, tout est dit. On a vraiment des choses explicites qui sont présentes. Et donc moi, j'ai cherché un certain nombre de ces noms. Alors je les cite parce qu'il faut les dire. Hein. Je ne les connaissais pas hein, auparavant. Hein. Nafez Asseli, Moubarak Awad, Izzeldin Abouelech, Iyad Bournat, pour ce qui est par exemple de la situation en Israël et en Palestine. Du côté de l'Inde, il n'y a pas que Abdul Ghaffar Khan. Le premier ministre de l'éducation de l'Inde indépendance, qu'on appelle Maulana Azad, ou une autre figure gandhienne aussi, qui est Zakir Hussain, et d'autres. Hein, en Afrique du Sud, beaucoup de combattants contre l'apartheid étaient des Indiens, musulmans, disciples de Gandhi, et qui ont fait en sorte que aussi le message gandhien se diffuse plus largement dans la société sud-africaine. Donc là, on a plusieurs exemples, dans des contextes différents, de ces non-violents musulmans, et non-violents grâce à l'islam. Hein. C'est pas malgré l'islam, c'est grâce à l'islam. C'est au nom de l'islam qu'ils sont conduits à une non-violence active. Et cette non-violence active donc n'est pas une abstention d'implication en politique, mais au contraire un engagement en politique. Et donc là, je crois qu'on a vraiment, comme je disais, des antipoisons, des antidotes, des remèdes à ce que des coupes et d'autres figures d'un islam politique violent ont pu diffuser comme idées fallacieuses et destructrices. Et donc, je pense que nous avons un devoir collectif aujourd'hui de faire connaître ces figures.
Éric Vincent, vous me disiez juste avant le début de l'émission, comme ça nous parlions en la préparant, qu'en dépit de tout et de tout ce qu'on peut raconter, en contexte islamique, à côté de la terreur et de la violence terroriste qui s'abat et qui fauche ces vies humaines innocentes, il n'y a pas une endémie violente qui touche la société d'une part et d'autre part les questions d'hospitalité, d'accueil, de générosité demeurent réelles et vives, y compris durant cette période sanglante de conflit.
Tout à fait. C'est en fait les personnes qui réfléchissent sur la violence et non-violence en islam ont constaté que les sociétés majoritairement musulmanes était parmi celles où il y avait le moins d'homicides et de suicides, par exemple. Donc, c'est une chose dont on parle peu, mais qui est intéressante. Hein. On voit, par exemple, que notre actualité aussi est rythmée par les shootings, comme disent les Américains, donc ces massacres de masse qui ont lieu régulièrement aux États-Unis. Et donc, voilà, la société américaine est l'une des sociétés les plus violentes du monde, notamment, bien sûr, du fait de la circulation libre des armes à feu et des armes de guerre. Et donc, on a, je dirais, deux extrêmes, en quelque sorte. C'est-à-dire que, spontanément, le français moyen, quand il entend le mot islam, il est bien possible qu'il pense malheureusement à la violence. Or, on ne dit jamais que dans les sociétés majoritairement musulmanes, hormis les cas bien sûr particuliers, donc des guerres et du terrorisme que nous rappelions, eh bien, ce sont des sociétés dont le taux de violence est particulièrement faible. Donc là, on a voilà un exemple de comment l'islam aussi à long terme, les sociétés qui ont été marquées en profondeur par l'islam, ont pu peut-être réguler la violence aussi bien et peut-être mieux que d'autres sociétés. Et au nom de l'islam, enfin par effet de l'éducation, de la pédagogie islamique, et au fond ces non-violents musulmans dont j'ai parlé, nous montrent que cette interprétation de l'islam, en fait, n'est peut-être pas minoritaire, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Voilà, les non-violents musulmans sont méconnus, mais c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt, ou la partie émergée d'un iceberg d'un islam pacifique, dont on parle beaucoup mais qu'on a du mal à faire voir. Mais justement, là, on peut le montrer, on peut le mettre en œuvre, on peut le révéler à tous. Et je pense aussi qu'il y a un autre aspect qu'on peut mentionner, c'est le pluralisme religieux en islam. On sait que l'un des ressorts de la violence politico-religieuse est justement l'absence de pluralisme, hein, l'intolérance religieuse, ou soi-disant telle. Eh bien, s'il y a une religion parmi les grandes religions qui a le plus poussé et de façon la plus précoce la notion d'ouverture à l'autre croyant, c'est bien l'islam. Et de ça, on en a maints exemples du côté des théologiens et des chers soufis en particulier. Alors, ça nous amène à venir sur la question du soufisme. Hein. Et donc, certains réfuteront son importance ou le considéreront comme secondaire ou ne concernant qu'une élite. Ça reste à démontrer. Le soufisme est un phénomène extrêmement important, même numériquement, dans beaucoup de pays musulmans. Et historiquement, il a produit en effet des figures comme Ibn Arabi, Hafez, Rumi et d'autres, aussi dans l'islam africain, par exemple, dont on parle aussi rarement, et qui ont tous, pour ce qui est de ceux que j'ai cités en tout cas, mis en évidence cette ouverture, cette tolérance interreligieuse de façon explicite et extrêmement précoce, puisque dès le Moyen-Âge, on a des textes, on connaît tous le fameux poème de Ibn Arabi tiré de l'interprète des désirs, mon cœur est capable de prendre toutes les formes. Il est
prairie pour la gazelle, Kaaba pour le pèlerin, feuillet de la Torah, couvent pour les moines, mon cœur ne professe que la religion de l'amour, où que se dirigent ces caravanes, car l'amour est ma religion et ma foi.
Exactement. Et donc là, on a des mentions explicites. On est quand même au 12e, 13e siècle. Je veux dire, c'est extrêmement tôt. Et de mon point de vue, tous ces textes sont des points d'appui pour développer ce que j'oserais appeler un gandhisme musulman. Et l'un des enjeux, je crois aussi, de tout ça, en fait, c'est de, au fond, peut-être ne pas rêver de faire disparaître du Coran, par exemple, les versets qui sont violents. On sait très bien que, compte tenu de la réalité de ce qu'est une tradition religieuse, caviarder les textes sacrés, c'est probablement impossible et contre-productif. En revanche, l'exemple gandhien et des gandhiens musulmans comme Abdul Ghaffar Khan, et puis selon une autre tradition intellectuelle de Jadot Saïd ou de Mahmoud Mohamed Taha, nous permet de concevoir en fait l'idée d'un combat non violent. En fait, voilà. C'est-à-dire que le satyagraha, tel que le conçoit Gandhi, est un combat. Il n'est, donc, et vous voyez, donc, le Coran incite au combat, parfois, pas toujours d'ailleurs, hein, voilà, il incite, je pense, encore bien plus à la miséricorde et au pardon, mais indéniablement, il incite au combat à certains moments. Mais quelle est la forme de ce combat? Et si ce combat, en suivant les traces de Ibn Arabi et de Hafez, ne pouvait pas être ce combat non violent que Abdul Ghaffar Khan a mis en œuvre? Je pense que là, nous avons une façon de concilier des contradictoires et de trouver une voie moyenne, hein, cet idéal du milieu. On sait bien que l'islam se veut la religion du milieu.
La communauté du juste milieu.
Eh bien là, je pense qu'autour d'une non-violence active musulmane, nous aurions une synthèse féconde pour le présent et pour l'avenir.
Merci infiniment, merci beaucoup Éric Vincent. Nous arrivons au terme de notre émission. C'était Question d'Islam et vous retrouverez, chers amis auditeurs, toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. L'attachée de production est Sylvia Favre. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Olivier Dupré et la réalisation est toujours assumée avec brio par l'ami Franck Lilin.